En juin 1982, un an à peine après l'élection de Mitterrand, c'était le tournant de la rigueur. Face à l'inflation, la gauche prit une mesure que Giscard n'osa jamais prendre. Le blocage des salaires pendant 4 mois, accompagné d'un blocage des prix tout à fait théorique, d'autant que le gouvernement augmentait lui-même le prix de l'essence. De juillet à fin octobre, toutes les augmentations prévues dans les entreprises furent annulées. C'était encore un cadeau surprise pour le patronat. Et à la sortie du blocage, Monroy décrocha les salaires de la hausse des prix par la désindexation obtenue sans grève, commenta avec satisfaction le socialiste Jacques Delors. Cette désindexation a été un rude coup pour le pouvoir d'achat des travailleurs. Au fil des années, les salaires ont perdu de plus en plus de terrain par rapport au prix, pour le plus grand profit du patronat. Sous la droite, ces décisions auraient provoqué des réactions, mais Monroy avait certains atouts, comme il le confirma ultérieurement. Je cite. Je me disais, on casse l'inflation, les syndicats vont grogner, mais je vais les tenir. Ce qui était parfaitement juste, car pendant la préparation de la politique de rigueur, la CGT a fait croire que Mitterrand poursuivait sa politique, je cite, dans le sens des réformes engagées. La CFDT, pour sa part, approuva totalement et sans état d'âme les mesures de rigueur. Quant aux ministres communistes, les prétendus alliés des travailleurs dans le gouvernement, voilà comment le ministre Marcel Ricoux résuma ultérieurement leur action. Je cite « L'austérité passe sans problème. Le parti n'est pas effleuré par l'idée de quitter le gouvernement. Et l'humanité continue de se comporter comme un journal officiel. » Ces ministres restaient bien calés dans leur fauteuil. Fitterman se consacrant à des dossiers aussi déterminants que la défense du Concorde, le TGV et les ronds-points avec priorité à gauche. Mais les militants du parti, eux, étaient désorientés. Un exemple. Le ministre communiste de la Santé, Jacques Kralit, introduisait en 1983 le forfait hospitalier, c'est-à-dire un prélèvement de 20 francs par jour d'hospitalisation. Les cadres du parti durent convaincre les militants de défendre une mesure aussi impopulaire. Quand vous êtes chez vous, vous payez vos repas. C'est la même chose à l'hôpital. En niant que cette mesure rendait l'hospitalisation plus difficile pour les milieux modestes. D'ailleurs, la hausse du forfait hospitalier est aujourd'hui dénoncée à juste titre dans les pages de l'Humanité. Le gouvernement, après avoir montré de quoi il était capable dans les entreprises sous son contrôle, donna de la voix pour soutenir ostensiblement les patrons du privé et s'opposer aux travailleurs qui revendiquaient. En 1983, alors que les mouvements touchaient plusieurs entreprises de l'automobile, qui exploitent de nombreux travailleurs immigrés, Pierre Monroy commentait ainsi une grève à Renault Flin. Je le cite. Les immigrés sont agités par des groupes politiques et religieux qui ont peu à voir avec les réalités sociales françaises. Puis quand la direction de Peugeot imposa 1900 licenciements à son usine de Talbot-Poissy fin 1983 et que les travailleurs se mirent en grève et occupèrent l'usine, le gouvernement envoya les CRS pour les déloger. La grève Talbot resta isolée mais fut suivie et commentée dans le pays par les travailleurs. Le ministre communiste Jacques Kralit, passé de ministre de la Santé au poste annexe de l'Emploi, après avoir déclaré qu'il n'accepterait aucun licenciement, qualifia d'acquis intéressant l'accord qui entérinait ces licenciements. La dernière attaque d'envergure contre les travailleurs de la part du gouvernement socialiste avec participation des 4 ministres communistes fut le plan acier annoncé en mars 1984. 21 000 emplois supplémentaires supprimés après les dernières saignées de 1978-79 qui venaient à peine de s'achever. La colère, le désespoir se mêlaient au sentiment de trahison. Mitterrand lui-même avait promis aux sidérurgistes qu'il ne permettrait plus aucune suppression d'emploi dans la sidérurgie. Le gouvernement de gauche s'attaquait de front à la classe ouvrière et apparaissait comme le licencieur en chef dans le pays. En avril 1984, 150 000 travailleurs manifestant en Lorraine, des affrontements très violents se produisaient avec la police, des portraits de Mitterrand étaient brûlés, la permanence du PS mise à sac à Longwy. Puis les syndicats encadrèrent fermement une grande marche sur Paris, le 13 avril, mais sous forme d'enterrement. Comme depuis 1980, encore une fois, les dirigeants syndicaux qui se voulaient les défenseurs de leurs amis au gouvernement firent tout pour que cette colère ne converge pas dans un mouvement puissant du style de celui de 1979. Georges Marchais, secrétaire général du PC, prit part à la manifestation de Paris en critiquant le plan acier, pendant que ses camarades ministres manifestaient leur solidarité gouvernementale. Jean-Claude Guessot, le numéro 2 du parti, rendit visite aux travailleurs en Lorraine, les assurant que tout serait mis en œuvre pour s'opposer au plan acier, le jour même où les députés du Parti communiste votaient la confiance au gouvernement sur sa politique industrielle. L'Humanité, pour sa part, titra « Nous sommes au gouvernement et avec les travailleurs », illustrant ainsi toutes les contradictions de la position du Parti communiste. La querelle de l'école donna l'occasion à la droite d'une démonstration de force et à la gauche de montrer une nouvelle fois sa lâcheté face à la réaction sur un terrain qui ne menaçait en rien les intérêts de la bourgeoisie. La création d'un grand service public laïque de l'éducation nationale avait été une promesse du candidat Mitterrand. Sous la pression d'une manifestation en mai 1982 de quelques 200 000 partisans de l'école laïque réclamant la nationalisation des écoles privées, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, prépara pendant 2 ans, non sans difficulté et pression de toutes sortes, un projet de loi déjà singulièrement en retrait par rapport aux engagements de Mitterrand. Mais c'était encore trop pour les calotins et réactionnaires de tout poil. La droite se saisit de l'occasion pour battre le rappel de ses troupes sur le thème de la liberté d'enseignement et de la lutte contre le totalitarisme marxiste. Ce fut un succès. Une grande manifestation de plus d'un million de personnes à Paris en juin 84. Pris à tour ouvertement politique avec le grand retour des politiciens de droite vaincus en 81 et les slogans contre Mitterrand. Le gouvernement de gauche retira sa loi sur l'école pendant l'été 84. Il battait honteusement en retraite, renforçant ainsi le camp de la droite. Cet événement eut des conséquences politiques pour les milieux populaires. Des catégories plus sociales, plus ou moins réactionnaires, avaient déjà bataillé contre le gouvernement de gauche. Les policiers, les médecins, les agriculteurs, les transporteurs routiers et autres milieux patronaux. Il reste qu'en allumant la querelle scolaire, la gauche a donné les moyens à la droite de fédérer ses mécontentements autour de revendications politiques dirigées contre le gouvernement de gauche. Ce million de manifestants de droite, ce n'était pas seulement à quelques ministres qui voulaient s'en prendre. Il représentait une force sociale sur laquelle la droite allait pouvoir s'appuyer pour préparer ses attaques futures contre la classe ouvrière. Et c'est une constante sous les gouvernements de gauche. Le plus grand danger pour la classe ouvrière, c'est que ces catégories de petits bourgeois réactionnaires, touchés par la crise et la politique gouvernementale, ou craignant de l'être, ne se contentent pas d'exprimer leur hostilité à la gauche et à ses politiciens. Mais c'est qu'ils se retournent contre les travailleurs. Car le pire, c'est que c'est au nom des travailleurs que la gauche mène sa politique criminelle en faveur du grand patronat. C'est la classe ouvrière la première et principale victime de cette politique. Mais la gauche au gouvernement a le cynisme de prétendre agir dans l'intérêt des travailleurs et des plus pauvres. Et les petits bourgeois imbéciles croient que tout leur malheur vient de ce qu'on dépense trop pour les chômeurs qui ne veulent pas travailler, pour les salariés qui font trop peu d'heures et vivent au-dessus de leurs moyens. Et tant que les travailleurs se laissent paralyser par les appareils syndicaux et les partis qui soutiennent le gouvernement, il n'y a aucun moyen de les détromper. C'est pourquoi il est indispensable que la classe ouvrière manifeste sa totale indépendance et fasse entendre sa voix, ses protestations contre les attaques, y compris venant d'un gouvernement de gauche, pour trouver des alliés parmi d'autres catégories sociales, elles aussi victimes de la grande bourgeoisie. Apparaître comme la force la plus puissante capable de mettre fin au recul subi par tous. C'est la seule façon de contrer la démagogie dangereuse de la gauche qui prétend agir au nom des couches populaires et celle qui peut être mortelle de la droite, de l'extrême droite. Car il faut bien dire que les mêmes raisons qui ont unifié toute la droite contre lui, le gouvernement de gauche a été l'extrême droite à devenir une force politique qui pèse. Et c'est là un cadeau empoisonné aux travailleurs. Jusqu'en 1981, le Front National est un groupuscule rassemblant des nostalgiques de l'Algérie française, des ex-pétainistes, des partisans de Poujade comme Le Pen lui-même. Le Pen avait obtenu 0,72% des voix à l'élection présidentielle de 1974 et n'avait pas réussi à se présenter en 1981. C'est à partir de 1983 que le Front National a créé la surprise, précisément dans la période où la gauche portait des coups contre la classe ouvrière. En septembre 83, au municipal partiel de Dreux, le Front National obtenait 16% des voix et fusionnait au deuxième tour avec la liste de droite. En juin 84, le Front National atteignait 11% aux élections européennes, autant que le Parti communiste. C'est sur le thème de l'immigration que le Front National a mené campagne. Il l'a fait d'autant plus aisément que tous les partis de gouvernement n'étaient pas en reste. La gauche a régularisé 100 000 travailleurs émigrés en 1981. Mais très rapidement, avec la montée du chômage, changement de ton. C'est l'aide au retour pour les travailleurs d'industrie et la chasse aux clandestins, clairement assumée par le gouvernement de gauche. Citons Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur. Je le cite. « En Italie, on distribue des documents en arabe pour expliquer aux immigrés qu'ils ont intérêt à aller en France. Il faut que les immigrés clandestins sachent qu'ils peuvent être expulsés. » Des propos qui ont une résonance très actuelle. Oh, il ne s'agissait pas de priver le patronat français d'une main-d'œuvre bon marché et destinée aux plus sales besognes. Mais la gauche comme la droite avait besoin d'un bouc émissaire contre la montée du chômage qu'aucun gouvernement n'avait pu endiguer. De ce point de vue, les militants du Parti communiste n'étaient guère armés, leur parti les entraînant dans la politique chauvine du « produisons français », qui laissait entendre que les travailleurs des autres pays étaient des concurrents, voire des ennemis. Sans compter les déclarations de Georges Marchais qui avait jugé, je cite, « absurde d'encourager l'entrée en France de nouveaux travailleurs étrangers pour ajouter de nouveaux chômeurs ». C'était des coups portés contre les travailleurs dans leur ensemble, pour tenter de les diviser, d'en briser la cohésion pour mieux pouvoir poursuivre les attaques contre la classe ouvrière. La droite n'eut qu'à faire de la surenchère sur le thème de l'immigration et de l'insécurité. De ces campagnes abjectes, c'est l'extrême droite qui en a profité. Les sentiments et les actes racistes ne sont pas nés avec le développement de l'extrême droite lupéniste. Mais ce racisme et cette xénophobie trouvèrent une expression politique en France alors que la gauche était au pouvoir. Et ce n'était pas un hasard. Le rapport entre immigration et chômage eut d'autant plus d'écho que la gauche s'est montrée incapable de contenir la progression du chômage que ses mesures, bien au contraire, aggravaient. Le succès du Front National était un indice assez sûr d'un changement de rapport de force politique plus général, les idées réactionnaires trouvant une expression politique, alors que la classe ouvrière, elle, se dépolitisait et ne croyait plus en sa propre force. Là où auparavant les racistes n'osaient s'exprimer, parce qu'ils rencontraient l'hostilité d'un milieu militant, ils pouvaient maintenant le faire ouvertement. Bien sûr, la montée de Le Pen a rencontré une aversion chez beaucoup de travailleurs. Les sentiments antiracistes sont une réaction saine contre des idées imbéciles. Elles sont surtout une réaction contre tout ce qui divise et affaiblit la classe ouvrière dans sa lutte contre la bourgeoisie. Mais le Parti socialiste vit surtout le profit à tirer d'un mouvement contre le racisme, non pas dans le sens des intérêts des milieux populaires, mais pour ses objectifs électoraux. Cette politique a pris la forme de SOS Racisme. Sous couvert d'apolitisme et de bons sentiments, SOS Racisme se contentait de stigmatiser les électeurs du Front National sans rien dire de la responsabilité de la gauche dans la montée du Front National. Cela permit peut-être au Parti Socialiste de retrouver une partie de ses voix en agitant l'épouvantail Le Pen, mais les grands concerts gratuits destinés à la jeunesse de gauche n'ont pas dissuadé un seul électeur du Front National. SOS Racisme, en ouvrant des carrières à quelques militants associatifs, dans le sillage de Julien Drey et Harlem Désir, accentue encore la méfiance vis-à-vis du militantisme politique dans les quartiers sinistrés. En revanche, le Front National a acquis une existence durable et représente toujours une menace de voir émerger un courant d'extrême droite, n'hésitant plus à utiliser la matraque contre le mouvement ouvrier. Le résultat des élections européennes de juin 1984 ministère le prix électoral payé par le Parti communiste pour sa participation ministérielle. Son score de 11% indiquait une perte de 2 millions de voix par rapport aux élections européennes de 1979. Ses ministres tombèrent en même temps que le gouvernement Mauroy, et malgré le regret de certains dirigeants, en particulier les anciens ministres, le Parti communiste décida de ne pas accepter de nouveaux portefeuilles ministériels dans le gouvernement Fabius. Ainsi, ce n'est pas la politique anti-ouvrière du gouvernement Mauroy, pas la baisse du pouvoir d'achat des salariés, et plus encore des retraités, pas les licenciements massifs dans les entreprises nationalisées, pas les cadeaux plus substantiels que jamais donnés à la grande bourgeoisie, qui ont amené les ministres communistes à quitter le gouvernement, mais l'intérêt d'appareil du Parti communiste. D'ailleurs, cela n'empêcha pas les députés communistes de voter confier la confiance au gouvernement Fabius et de rester solidaires du gouvernement socialiste pendant que Marchais reprenait une certaine liberté de ton pour dire tout le mal qu'il pensait de Mitterrand. Mais Marchais ne reconnaissait pas pour autant l'échec de la politique de participation gouvernementale du Parti communiste. Je le cite. « Les mêmes raisons qui nous ont conduits en 1980 à participer au gouvernement nous conduisent aujourd'hui à ne plus le faire. Le recours une fois de plus au double langage n'a pas permis au PC de regagner le terrain perdu. Il a continué inexorablement à décliner électoralement. Le gouvernement Fabius de 1984 à 1986 poursuivit sans les ministres communistes la même politique anti-ouvrière que le gouvernement précédent et le chômage monta inexorablement. En 1986, il atteignait 10% de la population active contre 6% en 1981. 2,5 millions de travailleurs étaient au chômage, 1 million de plus qu'en 1981. Sur le plan électoral, en 5 ans, la gauche a préparé la victoire électorale de la droite aux élections législatives de 1986. Et pendant les deux dernières années du septennat de Mitterrand, sa cohabitation courtoise avec Chirac a illustré l'idée que la politique de la droite et celle de la gauche, loin d'être incompatibles, peuvent se fondre sans grand problème. La droite se déconsidéra à son tour rapidement, si vite et si complètement que lors des élections présidentielles et législatives de 1988, Mitterrand fut réélu avec une majorité de gauche au Parlement, en se servant du slogan sommaire mais efficace « Au secours, la droite revient ». La peur de la droite sera désormais le principal argument électoral de la gauche, faute de mieux. Une nouvelle période de 5 ans de gouvernement de gauche s'ouvrit. Comme de 84 à 86, le PC, tout en faisant partie de la majorité et soutenant le gouvernement, resta à l'extérieur. Ce retour ne fut pas marqué par une explosion de joie dans les milieux populaires et ne souleva aucune espérance. Les travailleurs allaient pouvoir vérifier qu'avec le nouveau gouvernement en place, quelle que soit son étiquette, c'était pire qu'avant. Ce qui a continué à marquer la situation, c'est la continuation de la crise du système capitaliste, avec un chômage de masse qui avait touché 3,3 millions de personnes en 1993. Et jusqu'au bout, la gauche, avec ses chefs successifs, Rocard, Cresson, Bérégovoy, menèrent ouvertement, sans même essayer de donner le change à la classe ouvrière, la politique voulue par les grands trusts et les grandes banques. Ce qui reste de cette période, c'est la CSG de Rocard qui lui a ouvert la voie aux dizaines de milliards de réductions de cotisations sociales pour les patrons. C'est encore le RMI qui a institutionnalisé la misère pour les chômeurs de longue durée. C'est ce Rocard qui a préparé le rapport sur les retraites que la droite allait reprendre à son compte 2 ans plus tard pour mener l'offensive frontale contre celle-ci. Ce sont les déclarations de Rocard justifiant la chasse aux immigrés en lançant « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » qui sert de leitmotiv aujourd'hui à la droite. Puis ce fut Cresson, arrogante et vulgaire, se vantant d'expulser les immigrés par charter. Ces charters qu'on appelait les charters de la honte, inaugurés en 1986 par Pasqua, ministre de l'Intérieur de Chirac, et à propos desquels elle se permettait de plaisanter de façon odieuse. Je la cite. « Les charters, ce sont des gens qui partent en vacances à des prix inférieurs. Là, ce sera totalement gratuit et ce ne sera pas pour les vacances. » Et enfin, il y eut Bérégovoy, l'ami des boursicoteurs et des patrons affairistes, catégorie dans laquelle s'illustrèrent les amis de Mitterrand. Quant aux travailleurs agressés par les patrons, ils virent la ministre du Travail, Martine Aubry, aider ces derniers à mettre à la rue des centaines de milliers de travailleurs. Tous ces socialistes voulaient prouver à leurs amis patrons qu'ils étaient prêts à les servir jusqu'au bout, quitte à perdre une partie de leur électorat et à se faire haïr par les travailleurs. Belle démonstration qui se termina par un ressentiment et un dégoût croissant dans le milieu populaire envers cette gauche et par un renversement durable de l'extrême droite. La gauche subit une défaite cuisante aux élections législatives de 1993. La politique des gouvernements de gauche s'était révélée désastreuse pour les travailleurs. Mais le pire, c'est qu'elle a discrédité les idées du mouvement ouvrier, détruisant la conviction que les travailleurs pouvaient changer la société, que les travailleurs pouvaient opposer à la politique de la bourgeoisie leur propre politique. Les passages de la gauche au gouvernement ont été pour beaucoup de travailleurs et de militants la démonstration qu'il n'y avait pas d'autre politique possible que de s'incliner devant les lois du marché capitaliste et que la classe ouvrière n'avait plus d'intérêt propre à défendre. Il fallait en... passer par la course à la compétitivité, à la recherche de la rentabilité et du profit. C'est cette perte de repères de classe, cette absence d'espoir en une société plus humaine et plus rationnelle, ce manque de confiance dans les capacités de la classe ouvrière qui ont contribué considérablement à démoraliser les militants du Parti communiste, les militants syndicaux et les travailleurs eux-mêmes. Le Parti communiste a perdu des voix, mais bien plus grave, il a perdu beaucoup de militants, qui manque maintenant cruellement dans les usines et les quartiers, laissant le terrain à la montée des idées réactionnaires. La CGT, quant à elle, s'est carrément effondrée en quelques années, passant de 2 millions d'adhérents en 1981 à 600 000 10 ans plus tard, et elle ne s'en est pas relevée depuis. Car les militants ouvriers ont partagé le sort de leurs camarades de travail, les coups plus durs du patronat, et la démoralisation les a touchés davantage encore que le reste de la classe ouvrière. Certes, les militants communistes avaient défendu la politique réformiste et électoraliste de leur direction. Formés à la tradition stalinienne, ils voyaient la classe ouvrière comme une force à utiliser au service de leur politique. Ils se méfiaient de ces réactions lorsqu'elles échappaient à leur contrôle. Ils s'opposaient aux révolutionnaires qui cherchaient à s'implanter. Mais le Parti communiste s'était enraciné dans les usines. Il avait attiré à lui les travailleurs les plus combatifs, avait formé des générations de militants politiques présents dans les ateliers, dans les quartiers, convaincus que le patron était l'adversaire et que la classe ouvrière avait un rôle politique à jouer dans l'avenir de la société. À leur manière, ils levaient un drapeau. Ces militants ont permis au Parti communiste de tenir, y compris dans les périodes dures, alors que le parti était isolé et ses militants réprimés, comme pendant la guerre froide. Il a mené pendant les années 50 une politique qui oscillait entre l'aventurisme et l'opportunisme. Il a même subi à l'arrivée de Gaulle une défaite électorale retentissante, mais il a gardé malgré tout, tout au long de ses 35 années dans l'opposition, ses militants et son poids, y compris électoral, dans la classe ouvrière. Et il aura suffi de quelques années de compromissions ouvertes avec le PS au gouvernement pour quelques strapontins gouvernementaux pour réduire tout cela à néant. Le jeu en valait-il la chandelle? En tout cas, la disparition progressive de ce milieu militant à partir des années 80, écœuré et déboussolé par les trahisons de la gauche au gouvernement, a créé un vide qui n'a été comblé par personne. De nombreux militants ont jeté l'éponge ou se sont cantonnés au terrain syndical. Les plus courageux ont continué malgré tout, ont constaté que leur relève se tarissait. Et d'ailleurs, sur quelle base recruter pour le Parti communiste? Sur l'espoir de retourner un jour au gouvernement avec les socialistes pour recommencer l'expérience toute récente de 1981? Justement, il y a une nouvelle version de l'Union de la gauche, sous la forme de la gauche plurielle de 1997, qui ne souleva pas les mêmes illusions qu'en 1981, car l'expérience Mitterrand restait présente dans les consciences. Mais ce qui est significatif, c'est que ce gouvernement Jospin, avec ses ministres communistes, Marie-Georges Buffet et Jean-Claude Quessot, et avec ses ministres verts, ne remis en cause aucun des mauvais coups portés par le gouvernement Balladur entre 1993 et 1997. en particulier la taxe sur les retraites et la sécurité sociale. Le gouvernement Jospin a privatisé à tour de bras, plus que tous les gouvernements de droite réunis avant lui. Martine Aubry utilisait les 35 heures pour faire passer la généralisation outrancière de la flexibilité au bénéfice du patronat, à qui fut accordé en prime des milliards supplémentaires d'allègement de cotisations patronales sociales. Les patrons grognèrent comme toujours, mais en profitèrent pour augmenter fortement la productivité du travail des salariés au détriment de leur santé. On assista à l'explosion des maladies liées à l'aggravation des conditions de travail. Comme tous ses prédécesseurs de droite ou de gauche, le gouvernement est resté spectateur face au licenciement. Jospin, comme Mitterrand ou Chirac avant lui, a oublié qu'il avait promis à des travailleurs de s'opposer à leur licenciement. Et il laissa Renault, dans lequel l'État était actionnaire majoritaire, fermer l'usine de Vilvoorde en Belgique. L'expérience de la gauche plurielle s'acheva par la piteuse défaite de Jospin à l'élection présidentielle de 2002, avec un parti communiste réduit à 3% des voix. Et voilà que le soir même de son premier tour, les dirigeants du Parti socialiste et du Parti communiste se sont succédés sur les ondes pour s'aplatir devant Chirac et appeler à voter pour lui, pour, disait-il, faire barrage à Le Pen. La veille encore, il qualifiait Chirac de porte-parole de la droite dure, de pire ennemi des couches populaires, de magouilleur et de délinquant. Le même Chirac se trouvait transformé en quelques minutes en porte-drapeau du peuple, meilleur défenseur de la démocratie. Cette émission politique honteuse et sans honneur avait comme seule finalité de faire oublier que le Parti socialiste et le Parti communiste avaient perdu 4 millions de voix par rapport à la dernière élection présidentielle. Ces dirigeants de la gauche ont encore une fois brouillé les cartes, au risque d'installer la droite pour longtemps au gouvernement, de préparer le lit de Sarkozy, plutôt que de faire la moindre ton critique sur la politique désastreuse qu'ils avaient menée pendant 5 ans. La droite est au gouvernement depuis bientôt 10 ans. Mais sur les 21 années qui précèdent, de 1980 à 2002, la gauche a occupé les ministères pendant 15 ans. À aucun moment, la gauche ou le gouvernement n'a protégé les travailleurs des agressions des capitalistes, des patrons grands et petits, des reculs et des attaques en tout genre. À chaque fois qu'elle fut au pouvoir, elle a apporté sa touche dans les reculs successifs. Suppression des emplois dans les services publics, remise en cause des droits des salariés, tant pour la retraite que pour le remboursement des soins, fermeture d'hôpitaux. À chaque fois, elle a adopté les mesures voulues par le grand patronat. Qui serait capable, dans les 30 années passées, qui a porté tel ou tel coup, tant il y a eu continuité par la politique qui a été menée? Au service de la bourgeoisie, ces politiciens sont vraiment interchangeables. Certes, leur langage peut différer, mais pas toujours. C'est l'ex-ministre socialiste de la Santé, le célèbre Claude Évin, qui mène aujourd'hui la charge pour démolir les hôpitaux dans toute la région parisienne. C'est Kouchner, qui a pu passer d'un camp à l'autre sans avoir besoin de reconversion. C'est un Strauss-Kahn, champion de la gauche, nominé par Sarkozy pour défendre à la tête du FMI les intérêts des grands trusts internationaux et des grandes banques contre les populations et en particulier les peuples des pays les plus pauvres. Qui osera dire qu'ils ne sont pas interchangeables ? S'il existe un domaine où la démonstration a été faite de la complète fusion entre la droite et la gauche, ce fut bien celui de la politique étrangère. La politique étrangère a été pendant 14 ans le domaine réservé de Mitterrand tout au long de sa présidence, puis celui de Chirac. La cohabitation d'un président de gauche avec la droite pendant 4 ans, celle d'un président de droite avec la gauche pendant 5 ans, s'est faite sur ce terrain sans l'ombre du moindre désaccord. Il s'agissait là, non pas de petits affrontements politiciens superficiels, mais de défendre les intérêts généraux des grands bourgeois français, Total, Bolloré, Bouygues, Lagardère et autres. Il s'agit donc de choses sérieuses. Il s'agit de l'argent de leurs mandants. ils doivent faire correctement leur job de représentants de commerce et tenter de préserver ce qui peut rester d'influence de cet impérialisme de seconde zone qui est l'impérialisme français. C'est de cela qu'il s'agit quand les uns ou les autres parlent de la France avec un grand F. Alors que ce soit comme gendarme en Afrique avec l'armée au Tchad, entre autres, de la répression en Nouvelle-Calédonie, du soutien des dictateurs corrompus pour préserver les puits de pétrole de Elf Total comme au Congo, de l'engagement dans la guerre du Golfe ou pour finir dans la compromission de l'armée française dans les massacres au Rwanda. Pas une seule divergence, pas l'épaisseur d'un papier à cigarette n'a différencié les choix des uns ou des autres. Les partis communistes et socialistes se présentent à nous aujourd'hui comme l'alternative politique à la droite au pouvoir. Les candidats à la candidature socialiste se déchirent aujourd'hui la dépouille de Mitterrand pour se faire légitimer comme héritier par leurs militants, mais surtout par leurs notables, à qui une victoire électorale ouvrirait un bel avenir. Les dirigeants du Parti communiste, quant à eux, tentent de sauver les meubles en remettant le dévouement de leurs militants au service d'un Mélenchon, ex-ministre socialiste, qui lui aussi évoque Mitterrand, ce politicien roublard, comme un monument du socialisme. Le pire danger qui guette la classe ouvrière, c'est de se laisser endormir par ses pantins au service de la bourgeoisie. Il est vital pour la classe ouvrière de retrouver la conscience de sa force et d'identifier ses ennemis comme ses faux amis, car elle les retrouvera tous sur son chemin lorsqu'elle reprendra le chemin des luttes. Pour marquer des points décisifs demain, alors que la classe capitaliste se montre de plus en plus exigeante, les travailleurs devront être prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à menacer le pouvoir économique de cette classe parasitaire. Pour conduire leur combat, les travailleurs auront besoin de militants qui n'auront pas peur de rompre toute attache avec le monde bourgeois, de militants communistes révolutionnaires dont la seule limite est la volonté des travailleurs en lutte eux-mêmes. Oui, la gauche a failli lamentablement, elle ne changera pas, elle n'est pas réformable. Ce dont a besoin la classe ouvrière, ce ne sont pas des politiciens liés de près ou de loin au monde des bourgeois. C'est un parti de combat véritablement communiste. La force et la puissance du mouvement ouvrier quand il se mettait en marche, la certitude qu'il a un monde à gagner en renversant le pouvoir économique et politique des bourgeois et en prenant les rênes de cette société. Voilà les échéances.